Que la grâce et la paix vous soient accordées de notre Père céleste et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire pour examiner un livre du prophète Habacuc, du chapitre 3, les derniers versets de ce court livre. J'entends tout ce tumulte et je suis profondément bouleversé. Mes lèvres frémissent de crainte. Mon corps est affaibli. Mes jambes se dérobent sous moi. En silence, j'attends le jour de la détresse pour aller attaquer le peuple qui nous opprime. Les figuiers ne portent plus de fruits. Les vignes ne donnent pas de raisins. Les oliviers ne produisent rien. Les champs ne fournissent aucune récolte. Il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches et il me fait marcher sur les hauteurs. Amen. C'était bien un texte où il y avait deux genres d'affaires. Au début de la texte, on voyait bien que le prophète était extrêmement triste. Mais pendant les deux derniers versets, nous avons vu que malgré tout cela, le prophète a éprouvé la joie en son Seigneur. Il s'est senti assuré en tant qu'un croyant. Il s'est réjoui de Dieu en qui il pouvait mettre son assurance. Si on avait lu seulement les premiers versets, on aurait été bien triste. Si on aurait voulu être méchant, on aurait pu lire la Bible d'une telle manière. Il faut toujours lire la Bible en totalité. Si sans les deux derniers versets de ce texte, on avait eu une image complètement fausse de la Bible. Si on n'avait pas lu les deux derniers versets où on voit toute cette joie, les deux derniers versets étaient étroitement liés quand même dans le début du texte. Qui était le prophète Habacuc et qu'est-ce qu'il nous signifie aujourd'hui? Quand j'ai choisi ce texte, j'ai un peu réfléchi si le texte est convenable pour nous, mais puis j'ai tout de suite remarqué qu'on ne peut pas trouver les passages inconvenables dans la Bible. Tous les textes nous sont écrits par l'Esprit Saint pour nous lire, pour les lire et pour les examiner. C'est Habacuc qui vivait dans la terre de Juda à peu près 600 avant la naissance de Jésus. Il était bouleversé par la vie pécheuse de son peuple. Avant ce texte, on nous dit comment Habacuc exauce à Dieu. Pourquoi il y a tellement de querelles autour de moi? C'est 2600 ans n'ont pas beaucoup changé l'homme. Je pense que toi, mon auditeur, malgré où tu habites, où tu écoutes ce sermon, tu as certainement réfléchi à ces mêmes choses. Tu as été triste à cause de ces choses. Je sais qu'il y en a parmi vous, les auditeurs de divers coins du monde qui ont habité dans les différentes conditions, qui vivent dans les conditions tout à fait différentes que chez nous ici. Tu peux voir, il est possible que tu vois de méchanceté, des choses qui ne sont pas vraiment injustes, toutes ces mêmes choses dont Habakkuk a plein. Est-ce que tu as pensé, mon auditeur, que Dieu n'existe pas, ou si il existe bien, ce Dieu est assez injuste. Pourquoi Dieu permet de telles injustices et c'était les mêmes choses que Habakkuk pensait à son temps. Ce prophète était bien un homme croyant, il a vu la vie autour de lui. Il avait certainement averti son peuple. Il avait certainement dit que par cette vie pécheuse, ça ne va causer rien de bon. Ça serait bien de faire la repentance. Mais un seul petit prophète, les mots d'un petit prophète n'ont pas eu beaucoup d'importance. Pas plus que nos paroles aujourd'hui. Si nous fondons nos vues par la parole de la Bible, nous recevons des réponses on ne respecte pas si nous basons nos réponses sur la Bible. Je crois que Habakkuk, il y a 2600 ans, a éprouvé les mêmes choses que nous aujourd'hui. Il faisait comme serait bien de faire pour nous aussi. Il a prié Dieu. Il s'est tourné vers son Dieu, vers son Créateur. Il s'est tourné vers quelqu'un en qui on pouvait avoir assurance. Moi, personnellement, j'ai été consolé par un passage dans le livre d'Habakkuk où on dit que Habakkuk priait Dieu. On voit bien qu'Habakkuk a dit que Dieu était lent parce qu'il n'a pas tout de suite répondu à sa prière. Il a demandé pourquoi je dois attendre tellement longtemps, tu ne m'entends pas? Nous, en tant qu'hommes, nous sommes très impatients. Si nous avons un problème ou une question, si je me tourne vers mon Dieu, j'attends que la réponse vienne tout de suite. Et en plus, la réponse n'est pas toujours celle que nous voulons qu'elle serait. La réponse est telle que Dieu nous considère bon et convenable. Vous, les auditeurs, vous vous rappelez d'un personnage de la Bible appelé Job. Job a perdu tout ce qu'il avait eu. Il a souffert. Il a eu de bons conseils. Ses amis sont venus le conseiller. Nous avons souvent des amis très sages si nous avons des problèmes. Mais personne n'arrivait à aider Job. Et Job, lui aussi, a demandé à Dieu pourquoi comme ça. La réponse de Dieu à Job est très importante. Dieu n'a pas besoin d'expliquer les choses pour nous. Il est tout puissant. Ses pensées, nous ne pensons nous ne comprenons jamais ses pensées et la conduite de Dieu. Dieu a dit à Job, prends ta ceinture comme un homme et enseigne-moi. Pense à cela, mon ami. Quel sarcasme de la part de Dieu. Il dit à Job, enseigne-moi. Et puis il continue. Où est-ce que tu étais quand j'ai fait la création? Raconte-moi comment tout ça s'est passé si tu es arrivé. Et après cela, Dieu rappelle Job du fait qu'il a créé tous les animaux, toute la création, toute la beauté, la nature et l'homme. Ils vont bien lire la réponse de Job, du livre de Job. C'est une bonne totalité. Nous ne savons pas répondre comment toute cette création a été faite. La force des chevaux, les ailes des aigles, tous les miracles de la création sont venus de main de Dieu. Mais Dieu a entendu la prière de Job de la même manière qu'il a entendu la prière d'Habacuc. Et de la même manière, il t'écoute. Il a promis d'entendre, à écouter toutes les prières qui sont si tu vraiment a une mentalité où tu veux demander des choses. Toi, mon auditeur, cette grande réunion d'été a été organisée pour toi. On a fait beaucoup de travail. Les hommes ont travaillé, ils ont servi. Nous tous qui avons une mission dans cette grande réunion. Nous avons fait partie dans le travail du royaume de Dieu, dont le but est toujours que toi, mon auditeur, tu aurais la grâce de la repentance personnelle pour toi. Cette grande réunion d'été a été bien organisé. Nous pouvons admirer la conduite de Dieu et la bénédiction de Dieu, mais quand même le travail fait par les hommes n'est jamais parfait. Nous remarquons toujours quelque chose qui ne va pas parfaitement bien, mais l'œuvre de Dieu est toujours parfaite. Nous n'avons pas besoin de rien ajouter. Le noyau d'enseignement de la Bible, c'est l'œuvre expiatoire de Jésus par la mort et par la résurrection du Christ. Et les prêches que nous entendons, par exemple, dans la devise de la réunion, « Tes péchés te sont pardonnés ». C'est une chose simple. Tu as besoin de croire et de faire la repentance. J'ai déjà entendu que les prédicateurs ont parlé, ont dit, conseillé comment on fait la repentance. On va encore faire une conclusion. Si tu repens tes péchés en écoutant le prêche, et si tu regrettes ta vie pécheuse, si tu sens que tu ne possèdes pas la grâce de Dieu, si tu crois ce que tu entends quand on te prêche le pardon des péchés au nom et au sang de Jésus, tu as fait la repentance, tu peux commencer à suivre Dieu, Jésus et son troupeau. Habacuc attendait la réponse de Dieu. Et Dieu a vraiment répondu à Habacuc assez clairement même. Dieu a dit que ce peuple pécheux aura sa punition. Il y aura un peuple encore plus fort, plus puissant, qui vont détruire la nation. Nous pouvons deviner que Habacuc n'était pas très content de la réponse de Dieu. Il aurait certainement bien voulu entendre quelque chose de mieux. Que par exemple, on va un peu reprocher le peuple. Mais Dieu n'a pas besoin d'expliquer pour nous. Habacuc s'humiliait et il écoutait les conseils de Dieu. On dit ici, je me pose dans mon poste de garde et j'entends ce que Dieu veut me dire. Habacuc avait assurance envers Dieu. Il comprenait que tous ces fléaux allaient venir sur son peuple. Mais Habacuc voulait rester croyant. Comme on dit ici, il voulait attendre dans son poste de garde. Il voulait être vigilant. Ce matin, j'ai discuté ici avec un gardien. Il m'a dit qu'il avait veillé toute la nuit. C'est ce qu'il faut faire si on est gardien. On ne peut pas dormir. Et si on dort, c'est une sorte de crime. Et maintenant, vous comprenez, les auditeurs, que je pense de la vigilance concernant la foi. Il est bien utile de dormir dans les nuits et avoir une bonne conscience grâce à cela si nous avons la paix sur notre cœur. Mais veiller dans la foi veut dire que nous voulons être croyants. Nous voulons partir dans les réunions. Nous voulons rencontrer nos prochains croyants. Nous voulons écouter l'évangile du pardon des péchés personnellement. C'est ce qu'il veut dire, la vigilance et le fait de veiller dont on parle ici. Je sais bien que ton poste de garde de toi peut être vraiment difficile. Tu as des tâches lourdes à la maison, ou peut-être il y a des problèmes dans ton travail, et peut-être il y a des auditeurs très loin qui voient dont l'environnement est vraiment dangereux. Il n'est pas toujours facile de veiller, mais Dieu te voit n'importe où tu es, où Dieu t'a posé. Tu as été posé dans ton poste parce que tu as ta mission à toi. C'est ce que Dieu a voulu. Tu es la lumière et le sel, un messager de Dieu. Et nous aussi, ici, nous vous rappelons qui n'êtes pas présent ici. Vous êtes en communion avec nous. Vous êtes les enfants du même royaume. Et toi, qui avant était un membre de ce royaume, mais qui ne l'est plus, je sais certainement qu'il y a des auditeurs, qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui avant se réjouissaient du don de Dieu. Tu te réjouissais que tu avais l'espoir d'arriver au ciel. Tu t'es réjoui de la communion entre les croyants. Même les sentiments, l'atmosphère dans le royaume de Dieu. Viens, cher, reviens dans le royaume de Dieu. Fais la repentance. Quitte ta vie pécheuse. Tu ne vas rien obtenir. Tu ne vas pas obtenir des choses que ne pourrais pas obtenir à l'intérieur du royaume de Dieu. Il est bon d'être ici, dans le royaume de Dieu. Quand Habacuc attendait la réponse de Dieu, il y avait un conseil. Écris ce que tu vois clairement sur le tableau de la manière qu'on peut facilement le lire. Dieu a conseillé à Habacuc d'écrire les choses pour que quelqu'un pourrait lire. Les choses saintes ont été écrites dans la Bible pour nous conseiller. Nous croyons sur la base de la Bible et nous vivons sur la base de la Bible. Dieu a conseillé à Habacuc que écrit de la manière que n'importe qui peut lire. Vous, les auditeurs les plus jeunes, vous ne pensez pas, peut-être pas souvent, en fait, mais les gens de mon âge savent comment la vie d'un homme est courte. Quand on est jeune, on pense que c'est long, mais la vie d'homme est courte. Notre voyage est court. Quand nous menons notre vie, il nous serait très important de lire les Écritures qui ont été faites pour nous. Tu n'es pas obligé de lire la Bible et l'apprendre par cœur, mais je veux dire que il serait bien de recevoir le message qui a été écrit pour nous. Le fait que nous avons été créés pour le ciel, notre vie est temporaire et nous devons croire personnellement le pardon des péchés et l'Évangile. Et c'est ainsi que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Ésaïe en dit, et vas-y et écris cela devant eux dans un tableau pour qu'ils restent éternellement. La parole de Dieu est éternelle. Il subsistera. Au commencement, il était le Verbe et la parole est toujours la parole de Dieu. Après cela, Dieu a renforcé Habacuc et nous en même temps. Dans le deuxième chapitre, on dit que la prophétie va être accomplie en son temps. Il viendra en vérité. Les prophéties écrites dans la Bible ont devenu réalité, peut-être pas toujours où nous pensons, mais selon les horaires de Dieu. Mais on dit ici, attends, il viendra vraiment. La deuxième arrivée du Christ a été prophétisée. Nous ne pouvons pas savoir où sera le jour, mais il nous faut veiller et être vigilants. Dans ce texte, Dieu nous renforce, nous qui sommes peureux, nous qui avons beaucoup de soucis. Et il nous dit que nous pouvons avoir assurance en les promesses de Dieu. Nous avons chanté ici beaucoup sur l'assurance. Et je suis allée c'est même un thème d'un livre à Noël que SRK a publié, cette en fait question: est-ce que tu es assuré? Quelle est la chose sur laquelle tu poses ton assurance? Est-ce que c'est ta raison, tes amis, ta santé? Ce sont vraiment de bonnes choses. Ce sont les dons de Dieu. Mais chacun de ces choses sont périssables. Tout d'un coup, une de ces choses sur laquelle tu as fondé ton assurance, n'importe comment tu peux les perdre, toutes ces choses temporelles. Tu as certainement réfléchi les choses éternelles aussi. Est-ce que tu as assurance en coïncidence merveilleuse? Est-ce que tu penses que toutes les choses sont des hasards, des coïncidences? Ou est-ce que tu t'appuies sur Dieu et du fait que tu es un enfant d'un Père céleste et tu es né ici pour le ciel? Nous, chers auditeurs, notre vie n'est pas un hasard. Quand notre vie se termine, si on a son assurance dans les choses temporelles, l'argent, l'honneur, et si toutes ces choses t'empêchent à croire en Dieu, ces bonnes choses sont devenues des faux dieux pour toi. On parle beaucoup dans la Bible du fait que dans tous les temps, les hommes ont eu des faux dieux. Même Habakkuk dit des faux dieux, qu'il y a de l'or et de l'argent, mais point d'esprit. Dans l'Épître aux Hébreux, on dit que la foi est une ferme assurance sur ce qu'on espère. C'est par cela que les anciens ont eu leur témoignage. Après cela, je pense que nous comprenons mieux les versets que j'ai lus d'abord. Il est plus facile de les comprendre maintenant. Il est plus facile de comprendre pourquoi Habakkuk était tellement triste, pourquoi il a lamenté, pourquoi il a eu les chagrins, pourquoi il a parlé les figuiers qui ne portent plus de fruits et il n'y a pas de moutons dans les enclos. La nouvelle traduction finlandaise de la Bible dit que les figuiers n'ont pas encore de fruits. Les vignes ne donnent pas encore de raisins. On regarde avec assurance vers le futur. On regarde déjà la joie qui nous attend, qui est devant nous, qui n'est pas encore venue. La vieille traduction finnoise dit que Habakkuk voulait se reposer. Parmi les auditeurs qui écoutent ce sermon, j'ose deviner qu'il y en a qui ont pensé que « Oh, je voudrais me reposer. Je voudrais bien me reposer pendant mon voyage difficile. » Tu peux être fatigué à cause du monde qui t'entoure ou les problèmes de ta vie personnelle. Peut-être que tu Tu as peur des guerres, des catastrophes dans la nature. Nous entendons tout le temps les nouvelles de ce genre de choses. Mais rappelle-toi, mon auditeur, Luc en parle dans son évangile, ce que Jésus enseignait sur ces choses. Quand vous entendrez les nouvelles, encouragez-vous, levez vos têtes, car le jour de votre salut sera prêt. Habacuc aussi a levé sa tête. Nous avons quand même beaucoup de sujets dont on peut se réjouir. Le cantique que nous venons de chanter nous parle de ces choses, et surtout le dernier verset de ce cantique où on remercie pour l'expiation et pour le rachat de nos péchés. Nous avons tellement de sujets dont on peut se réjouir que en vain nous prêtons l'attention aux choses difficiles. Il vaut la peine de penser au don de Dieu, surtout l'importance du rachat de Jésus. Et là, les derniers versets du livre d'Habacuc deviennent vérité. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause de Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. C'est bien une belle image de ce qui nous attend. Là, nous chantons parfaitement, nous remercions parfaitement. Je fixe mon regard vers le ciel. Cher auditeur, la manière dont on peut y aller est vraiment simple. Nous voulons vivre en tant que croyants, avoir assurance à la conduite de Dieu. Nous voulons recevoir aussi bien de mauvais moments, de bons moments de la main de Dieu. Et avant tout, nous voulons conserver la bonne conscience. Cher auditeur, mets ton assurance en Dieu, en bonté de Dieu, n'importe où tu es. En ce moment, crois que tes péchés sont pardonnés au nom et au sang de Jésus. Jusqu'à la paix, la joie et la liberté. C'est ainsi que tu peux croire et tu peux continuer ton voyage avec assurance, être en sécurité. Au nom et sang de Jésus, tous tes péchés sont pardonnés. Chers frères, chères sœurs, au nom et sang de Jésus, tous les péchés sont pardonnés. Toutes les fautes, tous les péchés sont pardonnés au nom et sang de Jésus. Vous tous que je ne vois pas, bénis l'un l'autre comme on a l'habitude de conseiller. Et vous tous qui écoutez ce sermon par l'Internet, par la radio, n'importe où tu as le droit de croire. Tous tes péchés sont pardonnés. Tu peux être en joie, en paix, en liberté. Au nom de Jésus. Amen.